êtes bien sur Radio Orient, il est midi, le journal François-Xavier de Calonne. Les musulmans célèbrent depuis samedi l'Aïd al-Adha. Dans votre journal, le président de l'Union des mosquées de France, Mohamed Moussaoui. À l'occasion de cette fête, plusieurs ambassadeurs en France ont adressé leurs vœux au micro de Radio Orient. Nous écouterons les ambassadeurs de Tunisie, d'Algérie, d'Égypte et l'ambassadrice de Palestine. 4 millions de personnes se sont retrouvées ce lundi privées d'aide humanitaire en Syrie, une situation après que la Russie a bloqué le renouvellement d'une résolution. L'invité de Pluriel, ce week-end, était Jacques Baudrier, adjoint à la maire de Paris, élu communiste du 20e arrondissement de Paris, extrait de votre édition. La célébration, depuis samedi dernier, de la fête musulmane de l'Aïd al-Adha, une fête qui dure 3 jours et débute au lendemain du rassemblement rituel sacré des pèlerins au mont Arafat. Je vous propose d'écouter le président de l'Union des mosquées de France, entretien avec Mohamed Moussaoui.
Je vous remercie de m'avoir permis cette occasion de présenter mes vœux les plus chers à l'ensemble des musulmans de France et aux musulmans du monde entier, en espérant que cette fête ait pu apporter à l'ensemble de l'humanité un peu plus de paix, de quiétude. Les musulmans de France, comme tous nos concitoyens, ont dû prendre beaucoup de vigilance dans ce contexte particulier de reprise épidémique, mais dans l'ensemble, les musulmans de France ont exprimé leur joie par cette fête qui est une fête de partage et de solidarité. Et cette solidarité s'exprime et s'est exprimée comme toutes les années par cette d'abattre un animal en soi, ce qu'on appelle le sacrifice de l'Aïd, n'est pas une fin en soi, c'est surtout pour nourrir le pauvre. Les musulmans de France ont su appliquer cette tradition avec bienveillance et donc ce partage avec ceux qui n'ont pas les moyens de le faire apporte à l'ensemble de la communauté nationale un climat de paix, de sérénité.
Vous évoquiez le contexte sanitaire aujourd'hui en France avec cette reprise de l'épidémie de Covid-19. L'Union des mosquées de France a-t-elle donné des directives aux différentes mosquées ?
Oui, tout à fait. Nous avons demandé à ce que la vigilance soit de mise. Les gestes barrières, dont le port du masque, par exemple, pour les personnes vulnérables, notamment lorsque l'affluence est trop importante dans les lieux, notamment clos, mais pas uniquement. Je pense que quelle que soit la gravité ou je dirais la difficulté que peut poser l'atteinte au Covid, il faut toujours rester vigilant. Vigilant, je pense que cette vigilance collective nous permettra de passer et de surpasser cette nouvelle vague en espérant qu'elle soit la moins difficile et la moins grave pour tous nos concitoyens.
Aujourd'hui, quelles sont les principales problématiques liées à l'islam de France ? Plusieurs institutions musulmanes, par exemple, ont vu leurs comptes en banque bloqués par des banques privées. Qu'en est-il aujourd'hui et quels recours ont été menés ?
Effectivement, cette situation, elle n'est pas nouvelle en soi, elle date de quelques années, mais elle s'est accentuée ces derniers mois. Je pense que les banques elles-mêmes sont sous contraintes importantes et ils essayent de chercher en quelque sorte la facilité en fermant des comptes là où il y a éventuellement quelques difficultés. Nous avons saisi le défenseur de droit qui a exprimé sa volonté d'accompagner toutes les associations qui sont concernées. Nous avons également saisi la Banque du France, le gouverneur de la Banque de France, qui, dans chacun des cas, a désigné d'office une banque pour ouvrir un compte à une association qui s'est vue son compte fermé. Nous avons saisi également le ministre des Budgets pour le sensibiliser sur cette problématique. Mais il reste beaucoup à faire, tant des côtés des associations aussi, en termes d'une meilleure gestion, notamment des espèces, en fait, de ce qu'on appelle donc les liquidités, qui sont le fruit de collectes organisées au sein des mosquées, mais pas uniquement, au sein de tous les lieux de culte de France. Il y a cette tradition de collecter les dons des fidèles, et souvent ça se fait aussi par une espèce. Nous encourageons à ce que les associations se dotent de terminaux bancaires pour éviter au maximum les espèces, mais on ne pourra jamais les éviter complètement, raison pour laquelle nous demandons aux associations de rentrer en contact avec leurs banques et d'avoir ce dialogue permanent avec elles pour leur expliquer les pratiques courantes de l'association et les rassurer.
Mohamed Moussaoui, président de l'Union des mosquées de France, vous avez participé le 5 février dernier à l'inauguration du Forum de l'Islam de France. Où en sont les travaux aujourd'hui? Est-ce que vous pouvez nous rappeler les missions de ce forum, de ce FORIF?
Le FORIF a été créé par la volonté des pouvoirs publics et quelques responsables musulmans dans le but d'instaurer un espace de réflexion sur un certain nombre de thématiques choisies par les pouvoirs publics et les musulmans de France. Il y a eu des groupes de travail qui ont été constitués, des réflexions ont été faites, des guides pratiques ont été produits, mais il reste, je pense que les objectifs souhaités ne sont pas encore atteints. Les groupes de travail se sont réunis encore récemment en atelier puis en plénière, je pense que c'était mercredi, courant mois de juin. Le travail continue de cette réflexion, mais comme nous l'avons toujours dit et noté, ce forum de réflexion n'est pas destiné à être une instance représentative du culte musulman. Les musulmans de France doivent réfléchir davantage sur une meilleure représentation du culte musulman. Pour cette raison, le Conseil français du culte musulman, qui existe toujours encore du point de vue juridique, organisera, je l'espère, à la rentrée prochaine, des réunions avec toutes les composantes du Conseil français du culte musulman pour réfléchir ensemble sur la meilleure représentation, la meilleure forme de représentation du culte musulman. Et pour notre part, nous souhaitons que ça soit fait par le biais des départements, pour avoir un peu plus de proximité et permettre à l'ensemble des acteurs locaux de participer à cette représentation.
Et à l'aube du nouveau quinquennat d'Emmanuel Macron, quel état des lieux faites-vous du travail réalisé entre l'exécutif et les autorités religieuses?
Du point de vue du culte musulman, nous avons vécu quelques difficultés ces deux dernières années. Notamment pour des questions et des difficultés liées à la représentation et les divergences qui sont nées au sein du Conseil français du culte musulman sur des visions parfois diamétralement opposées sur ce que nous souhaitons faire comme représentation. Et donc nous avons vécu effectivement quelques difficultés dans cette période-là. D'une manière générale, avec le projet de loi sur dite loi contre le séparatisme, l'ensemble des cultes ont été impactés. Et d'ailleurs, nous avons vu les cultes catholiques ouvrir une discussion, je dirais, juridique, qui continue d'ailleurs, n'a pas encore été achevée, où les cultes catholiques, mais je dirais aussi le culte musulman, s'inquiètent sur l'évolution du travail associatif, et nous craignons que dans l'avenir, les plus sincères et les plus sérieux parmi les bénévoles fuient le travail associatif pour laisser place à des aventuriers qui ne respecteraient plus le cadre associatif tel qu'il a été respecté depuis longtemps. Je pense que ce déséquilibre dans le travail associatif créé par cette loi risque d'avoir un impact négatif dans l'avenir.
Le président de l'Union des mosquées de France, Mohamed Moussaoui, à l'occasion de cette fête de l'Aïd al-Adha, plusieurs ambassadeurs ont adressé leurs vœux au micro de Radio Orient. L'ambassadeur de Tunisie en France, Mohamed Karim Jamoussi.
À l'occasion de la fête de l'Aïd al-Adha, je voudrais adresser mes meilleurs voeux à toute la communauté arabo-musulmane et à toutes les Tunisiennes et à tous les Tunisiens de France qui passent leur Aïd loin de leur famille en Tunisie, en leur souhaitant une fête heureuse et bénie. Que Dieu l'accepte de nous tous et nous la rende avec bonté et amour. Un grand merci à Radio Orient pour m'avoir donné cette possibilité de m'exprimer.
Je vous propose à présent d'écouter les vœux de l'ambassadeur d'Algérie en France, Mohamed Antar Daoud.
Bonjour, c'est l'ambassadeur d'Algérie en France. À l'occasion de la célébration de l'Aïd al-Adha, je voudrais vous présenter tous mes vœux de bonheur, joie, santé et prospérité. Que Dieu nous enlève cette pandémie du Covid-19. Que Dieu nous donne la santé, que Dieu nous donne la sérénité.
Les vœux à l'occasion de l'Aïd al-Adha de l'ambassadeur d'Égypte en France, Alaa Youssef.
Je souhaite Eid Moubarak à tous les membres de la communauté égyptienne, arabe et musulmane, et tous les auditeurs de Radio Orient, et que cette fête leur apporte bonne santé, bonheur et prospérité, et qu'elle aussi sera l'occasion de réaffirmer les principes de notre religion, et surtout la tolérance, la solidarité et le respect d'autrui.
Et enfin, les vœux de l'ambassadrice de Palestine en France, Alaa Abou Hassira.
À l'occasion de Eid al-Adha, je voudrais présenter mes meilleurs vœux et souhaiter un Eid Moubarak à toute la communauté musulmane ici en France et partout dans le monde, et en particulier à mes compatriotes palestiniens en France et en Palestine. J'espère que la célébration de cette fête sacrée soit l'occasion d'espérer la liberté du peuple palestinien dans son État indépendant et souverain. Joyeuse fête à toutes et à tous. Merci.
Le président algérien propose un travail de mémoire sur toute la colonisation française, proposition faite lors d'un entretien avec l'historien Benjamin Stora, qui avait remis un rapport sur la mémoire de la colonisation en Algérie à Emmanuel Macron. Le président Tebboune lui a expliqué l'importance majeure d'un travail de mémoire sur toute la période de la colonisation au-delà de la seule guerre d'Algérie. 4 millions de personnes se sont retrouvées ce lundi privées d'aide humanitaire en Syrie, une situation après que la Russie a bloqué le renouvellement d'une résolution. Moscou a opposé son veto au Conseil de sécurité de l'ONU. Le texte permettait depuis 2014 de faire entrer des millions de tonnes de colis alimentaires et de médicaments dans toute la province d'Idleb. Le dernier convoi sous le drapeau onusien est entré dans cette province au point de passage de Bab el Hawa samedi depuis la Turquie. C'est la dernière zone qui échappe encore au contrôle du président syrien Bachar el-Assad. Près de 84 millions d'enfants et de jeunes ne seront toujours pas scolarisés d'ici 2030. C'est ce qu'indique le nouveau rapport de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture. Au Soudan, les organisateurs des sit-in lancés il y a 10 jours à Khartoum ont annoncé avoir démantelé 2 de leurs 4 campements des sit-in pour forcer l'armée à rendre le pouvoir aux civils. En Tunisie, le ministère de l'Intérieur appelle les baigneurs à la vigilance. Il alerte contre des conditions de baignade dangereuses dans la plupart des plages et en particulier dans la banlieue nord de Tunis, à Bizerte et à Tabarka, en cause des conditions météorologiques qui peuvent entraîner de forts courants. Une première apparition publique hier du roi du Maroc Mohamed VI depuis sa guérison du Covid-19. Le souverain a accompli les rituels de la grande fête de l'Aïd al-Adha. C'était au palais royal de Salé, près de Rabat. L'agence de presse MAP précise que la cérémonie s'est déroulée dans un cadre privé avec une assistance très réduite afin de respecter les mesures préventives en vigueur pour lutter contre la pandémie du Covid-19. L'invité de Pluriel ce week-end était Jacques Baudrier, adjoint à la maire de Paris, élu communiste du 20e arrondissement de Paris. Que pense-t-il de la décision du gouvernement de ramener le déficit à 3% du produit intérieur brut, comme cela est prévu par l'Union européenne? Jacques Baudrier.
Alors ça, c'est vraiment délirant, alors que la plupart des pays européens commencent à ne plus respecter cette règle absurde hein, qui avait été prise d'une façon un peu délirante et totalement par hasard il y a plusieurs décennies. Mais là, s'inscrire là-dedans, ça veut dire s'inscrire clairement les finances du pays dans une austérité terrible. Et une austérité qui serait dramatique du point de vue social. On voit bien que derrière, c'est pas d'augmentation pour les fonctionnaires ou beaucoup trop limitée, pas d'augmentation des politiques publiques, et puis désastreux du point de vue social, et puis désastreux aussi du point de vue écologique. Parce que Fabien Roussel a dit, pour le climat, il faudrait respecter les recommandations du GIEC, hein, c'est l'accord de Paris, tout ça, et donc c'est investir 6% du PIB pour le climat, ça veut dire 65 milliards d'investissements en plus par an en France, dont nous, on a estimé au moins une cinquantaine de milliards d'argent public. Donc, si on se retrouve à respecter les 3%, alors qu'il n'y a aucune justification sérieuse pour ce faire, c'est se donner une austérité qui fait que on ne donne pas un sou en plus pour le climat, alors qu'il faudrait mettre au moins 50 milliards de plus par an. Donc, c'est l'austérité sociale et qui va amener sûrement d'ailleurs une crise sociale sans précédent. Hein. S'engager dans cette voie, c'est s'engager dans la voie d'une crise sociale et des revendications très fortes et justifiées des salariés et de l'ensemble des Français et des Français. Et puis, c'est continuer à s'enferrer dans une inaction climatique lamentable et totalement irresponsable. On a bien vu les canicules qu'il y a eu il y a quelques semaines, qui risquent d'ailleurs de recommencer la semaine prochaine. Enfin, tout ça va malheureusement, et je le déplore, hein, extrêmement dans le mauvais sens, à rebours de certains propos lénifiants sur la planification écologique. Enfin voilà, donc dire on va respecter les 3% et on va baisser la CVE et en même temps dire on va s'engager pour le climat, tout ça c'est pas possible. Donc c'est un mensonge, il y a un mensonge quelque part. Je pense que le mensonge c'est de dire qu'on va faire quoi que ce soit pour le climat et le pouvoir d'achat.
Il y a quelques mesures sociales tout de même qui ont été annoncées, Jacques Baudrier, la revalorisation des bourses, la reconduction des repas à 1 euro pour les boursiers, l'augmentation aussi des pensions de retraite à partir du 9 août, si j'ai bien compris. C'est tout de même une bonne nouvelle pour vous ?
C'est-à-dire que par rapport au pouvoir d'achat et par rapport à la baisse de pouvoir d'achat de tous ces éléments, ces prestations, on est encore très très en deçà de ce qu'il faudrait. Je prends par exemple les APL. Si on voit en cumulé en 5 ans dans le mandat précédent, il y a eu 15 milliards d'économisés sur d'autres APL. Et là, la proposition du gouvernement, c'est d'augmenter cette année de 168 millions. Donc voilà, 168 millions, 15 milliards. Donc en gros, quand on vous a pris 100, on vous rend 1. Donc voilà, à peu près le ratio. Donc tout ça est ultra insatisfaisant.
Jacques Baudrier, adjoint à la maire de Paris, élu communiste du 20e arrondissement de Paris, il était l'invité de Pluriel, émission disponible sur radioorient.com, émission présentée par Loïc Barrière. L'Euro féminin de football, l'équipe de France a gagné hier soir 5-1 face à l'Italie, une large victoire lors de son premier match de cette compétition. Vous êtes bien sur Radio Orient, à 12h30, votre journal en langue arabe avec Mazen Hamoud. J'aurai le plaisir de vous retrouver à 15h pour le Flash, 17h30 pour votre journal. Très bon début d'après-midi à l'écoute de Radio Orient, il est midi 18h.